Ce livre aux éditions XO, Le Duel. Le Duel, c'est le duel qui opposa Napoléon III et Victor Hugo jusqu'à la chute du Second Empire. Oui, ou Victor Hugo plutôt à Napoléon III jusqu'à la chute du Second Empire en 1870. Un duel passionnant, foisonnant, haut en couleur et que vous peignez en sortant parfois des caricatures qu'on peut avoir, notamment celle de Napoléon le Petit, comme Victor Hugo l'avait d'ailleurs dépeint. Napoléon III, vous le réhabilitez un peu comme un personnage en tout cas plus complexe. Est-ce que c'est parce que Napoléon III, c'était aussi le neveu de Napoléon Ier?
Alors, ça, oui.
Et est-ce que vous avez une tendresse particulière pour les neveux?
Moi, j'aime bien les neveux. Oui, bon, forcément, j'ai d'indulgence pour les neveux, ça, c'est normal. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant avec Napoléon III, c'est que c'est le grand maudit de l'histoire. Quand on étudie l'histoire à l'école, le Malais Isaac, tous les livres classiques de la République, qui sont d'ailleurs excellents, Napoléon III est très mal jugé. Il est très mal jugé, comme d'ailleurs pratiquement tout le XIXe siècle. Il y a eu 5 monarchies au XIXe siècle, successives. Bon. Et la République n'aimait pas ça, forcément. Donc déjà, le XIXe siècle est traité d'une manière assez allusive, sauf pour la Seconde République. Quant à Napoléon III, il est vraiment, alors lui, condamné. Le début de Napoléon III, c'est un crime. Il fait un coup d'État contre la République. La fin, c'est un désastre. C'est la guerre de 70 et Sedan. Et donc, bon, il est vraiment le mouton noir. Et en vérité, s'il y a une telle animosité, c'est qu'il a failli réussir. C'est que 3 mois avant la guerre contre la Prusse, il y a eu un plébiscite, c'était le nom qu'on donnait au référendum à l'époque, et il a eu 7 millions de voix contre 2 millions contre lui. Je veux dire, il était extraordinairement populaire.
Et la guerre l'a perdu.
Et son régime fonctionnait, en fait.
Fort avait été ministre, oui. Ministre de la Culture, vous le rappelez un instant, et puis vous avez écrit de nombreux livres. Ça veut dire, lequel des deux vous auriez préféré être, Napoléon III, Victor Hugo? Auquel des deux vous identifiez le
plus? J'aurais préféré être Napoléon III.
Parce que vous préférez la politique?
Oui, exercer le pouvoir, et il avait quand même un certain nombre d'idées, et il a réussi à en mettre un certain nombre, justement, à exécution. Regardez les villes, la ville dans laquelle nous sommes, Paris, qui porte l'empreinte de Napoléon III. Vous allez dans des villes,
Ousmane, oui.
Vous allez à l'étranger, vous allez en Serbie, vous allez à Belgrade, vous allez à Bucarest, ce sont des petits Paris, ce sont des villes qui ont été construites sur le modèle de Paris. Vous traversez la Sologne, toute la forêt a été plantée par lui quasiment. Vous traversez les Landes, toutes les Landes ont été construites par lui. Les chemins de fer, le droit de grève, le droit des associations, les premières caisses de retraite, c'était lui. Alors, je ne le réhabilite pas parce que, au début, je mets d'ailleurs une page que je trouve très belle de François Mitterrand où il explique qu'un régime, même bienveillant quand il est une dictature, ne mérite pas de durer parce qu'il s'est imposé par la force. Il a raison. Donc je ne le réhabilite pas. Simplement, je pense qu'on a toujours tort de charger la barre quand elle ne mérite pas totalement de l'être.
Ironie de l'histoire, finalement, Victor Hugo doit dire merci à Napoléon III, puisque grâce à son exil, il a écrit Les Contemplations, Les Misérables, finalement l'écrivain.
Vous dites une chose à laquelle je tiens beaucoup, effectivement. Vous savez que Victor Hugo, un de ses problèmes, c'est qu'il était très compromis avec le pouvoir d'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était Louis-Philippe, qui était d'ailleurs un homme intelligent et plutôt bienveillant et cultivé. Et Victor Hugo avait espéré devenir le conseiller intime de Louis-Philippe. Et il y était parvenu. Il allait le voir pratiquement tous les soirs, il était le visiteur du soir. Il était pair de France, c'était pas rien à l'époque. Il avait réussi à rentrer à l'Académie française la 5e fois, mais il avait réussi à y rentrer. Il avait même eu un scandale de mœurs. Dans la mesure où il avait une maîtresse qui était adultère, ils avaient été saisis par la police au petit matin, et c'était Louis-Philippe lui-même qui avait étouffé l'affaire. Donc il était très très compromis avec le pouvoir. Et je pense qu'une des raisons de son animosité contre Napoléon III, c'est un, qu'il a essayé d'avoir le même statut, il n'y est pas arrivé, et que deux, il a compris que pendant cette période-là, en fait, il écrivait presque plus.
Vous parliez du pouvoir, Frédéric Mitterrand. Votre nom, il est intimement lié à la notion de pouvoir, le pouvoir que vous avez exercé en tant que ministre de la Culture, et puis le pouvoir qui a exercé, évidemment...
Mais j'étais pas si mauvais, d'ailleurs, il le dit, Philippe Ridé, parce que finalement, j'en ai assez...
l'histoire non, aussi.
Que, oui, réhabilitation de Frédéric Mitterrand.
Et le pouvoir, évidemment, qui a exercé votre oncle, François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995. Ouais. Vous avez une archive à nous montrer, Hélène, et cette archive, justement, elle illustre une des décisions historiques qu'a prise votre oncle au pouvoir.
Voici donc tonton François Mitterrand sur Antenne 2 dans l'émission Cartes sur table. Nous sommes en mars 81, soit 2 petits mois seulement avant son élection. En pleine campagne présidentielle, François Mitterrand n'hésite pas à nager à contre-courant des sondages d'opinion. Il va sur le plateau ce jour-là prendre position contre la peine de mort et contre 62% des Français opposés, favorables à l'époque à la peine capitale.
dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
Frédéric Mitterrand, vous avez été fasciné par cet homme, par cet oncle et sa décision courageuse. Vous avez aussi été fasciné par un autre personnage, le général de Gaulle. Est-ce que ça n'est pas trop dur d'être tiraillé tout le temps ?
Non, mais je voudrais faire juste deux observations. La première, c'est qu'en fait, quand un homme politique défend ses convictions d'une manière très très forte face à une opinion qui est défavorable, eh bien souvent l'opinion le lui pardonne et accepte. Première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un point commun avec ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Victor Hugo. C'est que François Mitterrand a été terriblement compromis par la peine de mort. Il y a eu toute la période de l'Algérie, qui a été une des périodes les plus sanglantes.
Il était ministre de la Justice et de l'Intérieur.
Et où il a, notamment comme ministre de la Justice, il ne plaidait pas pour l'abolition de la peine de mort. Bien au contraire. Et donc, il y a eu 56 exécutions ou 54, je ne sais pas. Et en tout cas, il en avait. Alors là, beaucoup de gens le savent et le disent. Et puis, ce n'est pas mon côté romanesque qui l'emporte. Il en avait, je crois, une souffrance intime d'avoir fait cela. Je pense que c'était un remords très, très profond. Et donc, c'est pourquoi il n'a pas hésité à braver l'opinion en disant « Quand j'arriverai, ça ne se passera plus comme ça ». Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, j'adorais le général de Gaulle.
Vous êtes gaulliste, au fond, plus que mitterrandiste ?
Non, je suis les deux, mitterrando-gaulliste, comme beaucoup de gens maintenant, vous savez, comme beaucoup de Français qui reconnaissent qu'après le général de Gaulle, dans les institutions qu'il a léguées, François Mitterrand s'est lové assez facilement. Et ce qui est très intéressant aussi, et ça, c'est une des raisons du livre, c'est que moi, j'adorais mon oncle. J'avais une très grande admiration pour lui. Il était très dur avec moi. Peut-être parce que j'étais, non pas à cause de ma vie personnelle, ça ils étaient totalement sans préjugés, mais parce qu'il avait peut-être de l'ambition pour moi, il trouvait que je ne faisais pas ce que je devais faire. Bon. C'est ce qu'il m'a dit à plusieurs reprises, et c'était très dur, parce que moi je lui répondais, donc ça ne se passait pas bien. Sauf à la fin de sa vie, où il est devenu extraordinairement gentil, et il m'a envoyé une lettre absolument magnifique, où il est revenu sur beaucoup des moments où nous n'étions pas d'accord. Mais moi, une chose pour laquelle je n'étais pas d'accord avec lui, c'était l'animosité qu'il avait contre le général de Gaulle. Je trouvais qu'à partir du moment où il était devenu président de la République, c'était fini. D'abord, il se lovait dans les institutions que lui avait données le général de Gaulle, et ensuite, il n'y avait plus à avoir cette animosité. Or, il l'avait toujours. Alors, ça m'a beaucoup intrigué, et j'ai donc relu pratiquement tous les textes qu'il a consacrés au général de Gaulle. Et je me suis aperçu que c'était très compliqué, pour lui aussi, parce qu'il ne pouvait pas ne pas reconnaître des choses extraordinaires au général de Gaulle.
Et vous êtes de fait celui des Mitterrand qui en fait la synthèse entre les deux et qui réconcilie en quelque sorte un petit peu le général de Gaulle et François Mitterrand.